Le mercredi 18 janvier, le Radiolab s'est rendu à Paris pour visiter le journal Libération et participer à un atelier à Radio France. Le Radiolab a commencé sa journée en prenant la direction des locaux du journal Libération.
En direct de la gare du Nord, le Radiolab attend son deuxième train. Comment tu te sens, Lee ?
Je me sens bien. Là, on vient tout juste de sortir du premier train. On va se diriger vers le métro et on va voir comment ça se passe pour la journée.
Il est actuellement 9h et le Radiolab vient d'arriver à Place d'Italie.
On est en train d'attendre. Et après, on aura un atelier avec Libération. Et cet après-midi, on aura un atelier, c'est le vrai du faux, l'atelier qui sera à France Info, il me semble.
Durant la matinée, Sylvain Mouillard, journaliste au service Société, nous a fait visiter et expliquer le fonctionnement du journal Libération.
Le service Société, c'est des rubriques assez vastes, puisqu'on s'occupe des sujets éducation, santé, police, justice, agriculture, immigration, environnement, droits des femmes. C'est là à 9h45, il y a une réunion en bas qui est la première réunion du matin où on parle de ce qu'on va avoir sur le site dans la journée et comment sera organisé le journal de demain. Là, ce matin, c'est plus un truc entre le chef de service pour acter ce dont on a déjà parlé au cours des précédentes journées.
Une réunion qui nous a permis de découvrir les dessus du journal Libération. Choix des sujets, mise en page du journal, etc. Après la réunion, Sylvain Mouillard a répondu à nos questions.
À distance, il y avait notamment Dove qui était le dernier qui parlait de ce procès-là qui aura lieu demain, d'une de nos journalistes, qui est attaquée par un génocide rwandais. Donc lui, c'est Dove, c'est le directeur de la publication, qui est donc le patron du journal, du côté éditorial, on va dire. Il y avait Paul et Alexandra qui sont directeurs de la rédaction aussi, donc les adjoints, entre guillemets, de Dove. Et après, il y avait différents chefs de service, donc service politique, service international, service société. Ensuite, il y a le service Actu. C'est la première personne qui a pris la parole. C'était une femme qui parlait du crash de l'hélicoptère, notamment. Donc le service Actu, c'est un service qui bosse pour le site. Enfin, tout le monde travaille pour le site, mais leur mission essentielle, c'est d'assurer un suivi rapide sur le site internet de l'actualité. En gros, quand un journaliste écrit un papier, le circuit classique, c'est cette personne écrit son article, il va nous le rendre à nous, les chefs de son service, on va relire, faire des échanges avec lui, et puis quand on arrive à une version qui nous satisfait, on envoie cet article à l'édition. Et donc l'édition, c'est des journalistes aussi, mais dont le métier spécifique n'est pas d'écrire, mais de vérifier, corriger, éditer les articles. Donc vérifier qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, vérifier qu'on toutes les identités des gens, qu'on ne s'est pas trompé dans les noms de famille, dans les noms des villes ou des villages, vérifier les âges, vérifier tout un tas d'informations de base, et aussi de faire en sorte que ça soit harmonieux et plaisant à lire, et parce qu'il y a des fois des articles qui sont relativement longs, qu'il y ait des moments de respiration dans le texte, de mettre ce qu'on appelle des intertitres, donc c'est des trucs pour essayer de relancer l'attention, relancer la lecture, des exergues, des titres qui donnent envie. Donc ça c'est le boulot des éditeurs. Il n'y a pas que les éditeurs. Alors il y a les photographes, il y a différentes manières d'obtenir des photos. Il y a des banques d'images auxquelles on s'abonne ou qu'on peut acheter. On peut acheter des images faites par des photographes travaillant pour ces agences. Il y a aussi des photographes qui travaillent uniquement pour Libé, c'est-à-dire qu'on les missionne pour un reportage, pour partir avec un reporter sur le terrain et travailler et ramener des images en photo. Je viens de dire mise en page, c'est aussi un autre métier, c'est maquettiste. C'était un mec qui était là, qui avait les cheveux gris, dont lui le travail, ils sont plusieurs, est de mettre en page le journal et de faire en sorte que ce soit d'une part qu'on arrive à faire tenir les textes qui sont plus ou moins longs dans un format quand même réduit, parce qu'on a deux pages, de réfléchir, de voir qu'est-ce qui peut être le plus joli en termes de maquette, qu'est-ce qui va donner le plus envie de lire le truc, de se dire, on va avoir image, un titre de ce côté-ci, le texte qui se déroule comme ça. Donc ça, c'est les maquettistes. On a parlé des éditeurs, des photographes. Il y a des iconographes, donc c'est des gens qui travaillent au service photo. Eux, ils prennent pas directement les photos, mais leur travail, en fait, c'est des... Comme moi, je relis les articles des journalistes, eux, ils relisent, en quelque sorte, les photos des photographes sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils récupèrent les images, ils leur demandent peut-être de travailler sur certaines des images, d'axer leur production photo sur un angle ou un mode de traitement.
Après ces explications, nous l'avons interrogé sur la question de la neutralité et de l'objectivité du journaliste.
C'est impossible d'être objectif parce que, en fait, c'est quand même un être humain qui écrit et qui décide de commencer son article avec tel aspect dans un reportage, qui décide de finir son article avec telle phrase, qui décide de mettre tel ou tel adjectif, de citer plus longuement telle ou telle personne. Et donc ça, c'est forcément un choix humain. Et donc, on n'est pas objectif. Ça n'existe pas, je pense. Par contre, on a une obligation, et ce qu'on essaye de respecter tous les jours, c'est d'être honnête. Et ça, c'est un devoir déontologique, on va dire, qui est de rapporter les faits tels qu'ils sont, de ne pas les déformer, de donner la parole aux différentes parties. Et ça, c'est un truc sur lequel on ne peut pas transiger. On a un degré d'exigence quand on fait refaire des articles parce que peut-être il va manquer telle ou telle information ou parce que là, vous voyez par exemple ce journal-là, le rouge là, moi j'ai bossé dessus avec les deux journalistes qui ont révélé cette histoire. C'est une histoire de détournement de l'argent du pétrole congolais. Le Congo, la République du Congo, c'est un petit pays de 5 millions d'habitants en Afrique. Qui tire la majorité de ses ressources du pétrole. Et là, il y a deux journalistes de notre équipe qui ont mis la main sur une enquête que mène la justice depuis plusieurs années contre un homme d'affaires de ce pays du Congo qui détourne l'argent du pétrole, mais détourne des sommes faramineuses. Et en fait, c'est pour un pays aussi pauvre que le Congo, le pétrole est une de ses principales ressources. Et cette ressource devrait normalement servir à financer les services publics, à permettre que les gens aient l'électricité, que les hôpitaux aient de l'eau courante, etc. Ce qui n'est pas le cas au Congo. Et ce qui n'est pas le cas notamment parce que ce type est le président et le clan au pouvoir au Congo, détourne des centaines de millions et probablement des milliards d'euros depuis des années liées aux ressources du pétrole. Donc eux, ils ont enquêté sur cette histoire, ils ont récupéré des documents qui constituent des preuves de ce détournement organisé. Et puis, c'est pas uniquement eux dans leur tête qui ont ça, puisque la justice a mis en examen cet homme d'affaires, la justice française l'a mis en examen pour détournement et corruption. Mais ils ont fait ce boulot, il y avait quand même des choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, on a les preuves, on a des documents, on a contacté la justice. Qui est-ce qu'il faut contacter aussi pour faire ces articles? Donc, en effet, ils ont dû appeler, et c'est là où je reviens à la question de la déontologie et ce qu'on appelle le contradictoire. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait les deux versions d'une histoire. S'il y a quelqu'un qui met en cause une personne, la personne mise en cause, il faut qu'elle ait la possibilité de se défendre. Donc, on a contacté ce monsieur, on a contacté le président du Congo, on a contacté tout un tas d'interlocuteurs qui étaient mis en cause dans cette affaire. Et on leur a donné la possibilité de se défendre. On leur a pas dit défendez-vous. On leur a posé des questions en disant nous avons des éléments qui montrent que vous avez détourné, passé 300 000 euros en cash à l'aéroport du Bourget. Qu'est-ce que vous en dites? Certains ont répondu, d'autres n'ont pas répondu. Alors des fois on passe par leur avocat parce qu'ils veulent passer par les avocats pour communiquer. Donc ça c'est une obligation dans n'importe quel article, c'est laisser la possibilité à tout le monde de s'exprimer et de donner son point de vue sur les affaires, de leur poser des questions, de répondre à nos questions.
Durant l'après-midi, le Radio Lab s'est rendu à la maison de la radio pour participer à l'atelier Le vrai du faux proposé par Radio France.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait à l'atelier Le vrai du faux à Radio France ?
Alors, à l'atelier Le Vrai du Faux, on a dû regarder justement différentes fake news et distinguer le vrai du faux. Et ensuite, nous en avons fait en groupe des émissions qu'on a pu reprendre juste après.
Du coup, on était par groupe de quatre environ, et chacun avait différents documents de et où il fallait trouver les problèmes et du coup les fake news qu'il pouvait y avoir. Et après, on a dû en faire une émission.
Et donc, c'était en fait, nous, le truc qu'on devait faire, c'était... on avait vu que Zelensky, il avait sur son t-shirt le symbole de...
La croix gammée.
La croix gammée, voilà. Et donc, en fait, c'était un fake news. Et en fait, c'était un montage qui avait été fait. Et donc, nous, ce qu'on devait faire, c'était démontrer le fait que c'était un fake news et que c'était diffusé rapidement, notamment parce que c'était sur un t-shirt de foot. Et c'est pour ça que c'était diffusé rapidement, parce qu'en fait, les gens étaient très fans de foot. Du coup, bah, quand c'est un faux qui circule à propos du foot, ça circule rapidement.
Avez-vous pensé de l'atelier, point positif et négatif?
Moi, j'ai trouvé qu'en positif, c'était une très bonne simulation de ce qu'on pouvait vivre quand on travaille à la radio. Alors, évidemment, nous, on n'est pas dans le même type de radio, mais ça... Ça reste quand même quelque chose de similaire. J'ai pu retrouver ce qu'on faisait ici dans ce qu'on a fait là-bas. Et je trouve que du coup, c'était très très bien fait.
Moi, j'ai bien aimé juste... au début, c'était un peu... Pas énervant, mais c'était bizarre parce que la dame qui nous le faisait, elle avait un peu l'air de pas savoir à qui elle avait affaire, entre guillemets. Et du coup, elle nous prenait un peu comme des plus jeunes et moins informés. Du coup, on apprenait... Enfin, elle nous apprenait des choses très basiques qu'on savait déjà. Du coup, au début, c'était un peu décevant. Et puis après, quand on a enregistré, bah, c'était stylé avec le jingle. Et puis, les micros, ils sont pas exactement pareils. Du coup, c'était stylé de voir comment ça fonctionne et tout.
Mais c'est vrai qu'une fois qu'on arrivait sur les plateaux, c'était vraiment incroyable avec la musique qui arrivait. Et là, on s'est dit, waouh, on y est. et ça, ouais, ça donnait des frissons de se dire, on est à France Info. Mais il n'y a pas de point négatif, vraiment.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info. Bonjour à tous, vous écoutez le vrai du faux, le faux du vrai, à vous de choisir. Comme tous les jours, je suis accompagnée de mon équipe de journalistes chasseurs de fausses infos. Clémence Petit.
Bonjour.
Justine Jean-Daubion.
Bonjour.
Adèle Petit.
Bonjour.
Nous aimons regarder l'actualité et vérifier les fausses informations. Notre truc préféré, c'est de démonter les fake news. Aujourd'hui, la rumeur qui nous intéresse est Zelensky en Dr. Jekyll ou Mr. Hyde. Clémence, pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit exactement?
Bonjour Anne, bonjour à tous. D'après cette rumeur, il paraît qu'un ancien pilote d'avion surnommé le fantôme de Kiev est mort. Il avait abattu un certain nombre d'avions russes. Cette histoire est sortie d'un mythe, puis était prise d'un jeu vidéo. On a pu voir circuler en masse cette information sur Twitter. À l'origine, elle était diffusée sur YouTube.
Merci Paya. Janine, alors cette rumeur est-elle vraie ou fausse? Comment avez-vous vérifié?
Alors Lee, cette rumeur est-elle vraie ou fausse? Comment avez-vous vérifié?
Elle donne l'impression du contraire, mais pourtant cette rumeur est une fausse information. Après avoir fouillé et enquêté, je peux vous dire que c'est une fausse information car les journalistes français de BFM TV sur place donnent des infos différentes de celles qui ont été analysées. Le compte Twitter de l'Assemblée russe et les comptes pro-russes, qui sont bien connus pour la propagande, ont diffusé ces infos. Par exemple, la photo d'une maternité soi-disant non opérationnelle n'est en fait qu'une maternelle, comme nous l'avons découvert grâce à une analyse avec Google Earth.
D'après cette rumeur, il paraît que Zelensky, le président de l'Ukraine, posait sur une photo avec un t-shirt de foot dans les mains où la croix gammée était représentée. Les internautes ont sûrement voulu faire croire que Zelensky était un partisan nazi. On a pu voir circuler en masse cette information sur Twitter. À l'origine, elle était diffusée sur le site de Libération.
Merci Clémence. Justine, alors cette rumeur est-elle vraie ou fausse? Comment avez-vous vérifié?
Elle donne l'impression du contraire, mais pourtant cette rumeur est une fausse information. Après avoir fouillé et enquêté, je peux vous dire que c'est une fausse information car grâce à notre travail de recherche, et notamment la recherche inversée de Google, nous avons pu retrouver différentes versions de la photo. Elle a donc été modifiée. Ensuite, nous avons utilisé le logiciel de vérification InVideo Verify qui permet de mettre en avant les différences de couleurs entre les pixels d'une image. Cette analyse de la photo nous a permis de voir une différence de couleur entre les pixels autour de la croix gammée notamment, ce qui indique une manipulation de l'image. La photo d'origine qui est apparue dans le journal Libération montrait alors le président ukrainien tenant le maillot de l'équipe de foot ukrainienne à l'occasion de l'Euro. Cette photo a donc subi un montage pour faire disparaître le numéro 95 au dos et le remplacer par une croix gammée, ce que nous avons pu en conclure grâce à nos recherches de vérification.
Vous l'aurez compris, avant de partager une info, il faut se méfier des rumeurs et chercher à les vérifier. En se posant quelques bonnes questions, on évite de partager n'importe quoi. Si vous aussi, vous voulez devenir un expert pour démêler le vrai du faux, voilà quelques conseils très simples. Lee, il faut vérifier les photos.
Oui, il faut toujours vérifier vos photos grâce à une recherche inversée sur par exemple image.google.com.
Claude, vérifier les sources et écouter Radio Intox.
Donc chers auditeurs, avant de rediffuser une information, n'oubliez pas de vérifier vos sources et écoutez votre radio préférée, Radio France Info, qui valide toujours ses actualités avant de les diffuser.
Lou, il faut vérifier le compte.
Oui, bien évidemment, n'oubliez pas de vérifier le compte, même s'il est certifié, l'information peut s'avérer fausse. Vérifiez toujours les informations sur les sites internet.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.
Eh bien, c'est déjà la fin de notre émission. Je tiens à remercier notre technicien Lou, ainsi que nos journalistes qui ont fait un vrai travail d'enquête. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même studio, pour démêler le vrai du faux. Bisous les loulous.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.